C'est le Ghetto Blaster.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Ghetto Blaster, l'émission de la programmation musicale de Radio Campus Tour. Ce soir, dans le Ghetto Blaster, j'accueille Ellie et Samuel Garcia qui ensemble forment le duo Garcia, duo musical qui propose donc un répertoire traditionnel du Proche et Moyen-Orient. Dans quelques instants, vous serez en concert depuis la salle Pantagruel, salle du Crous, donc au niveau des Deux Lions à Tours. Mais dans un premier temps, nous allons discuter un petit peu ensemble avant ce concert. Et donc, tout d'abord, bonsoir à tous les deux.
Salut Mathilde. Bonsoir Mathilde.
Et donc, pour commencer la présentation du duo, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de la musique que vous interprétez et puis surtout, comment est-ce que vous avez construit ce répertoire?
Alors oui, le répertoire qu'on joue au sein du duo Garcia, c'est un répertoire qui nous fait voyager entre le Proche, le Moyen-Orient, comme tu l'as dit, et le Maghreb. Puisque avec Samuel, notre formation réunit le luth afghan, le robab et la derbouka et différentes percussions que Samuel joue. Et donc, le répertoire est composé de pièces traditionnelles tirées de répertoires populaires et classiques du Proche, Moyen-Orient, Maghreb. Donc on va pouvoir retrouver des pièces traditionnelles très populaires composées par des compositeurs populaires des années 50, 60, comme Mohamed Abdel Wahab ou comme... Ahmad Zaher, qui était un chanteur hyper populaire en Afghanistan dans les années 50-60, qui s'accompagnait à l'accordéon. Donc voilà, on va retrouver des pièces traditionnelles d'Afghanistan, de Turquie, Maroc, Algérie.
Égypte, Tunisie, Liban,
Inde. Voilà, des morceaux qui voyagent entre Afghanistan, Inde, qui sont des morceaux connus en Inde et en Afghanistan. Donc c'est notre répertoire voyage un peu dans tout ça.
Iran aussi. Récemment.
Tu as listé un petit peu les différents instruments qu'on retrouve au sein du duo. Est-ce que tu veux bien nous les décrire plus en détail? Parce que je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs, même moi, je connaisse
le robab.
Pas bien tous les instruments. Ouais.
Et ben, la derbouka, Samuel, lui, joue de la derbouka. C'est une percussion traditionnelle très répandue au Proche Moyen-Orient. Si tu veux en parler un petit peu, Sam.
D'accord. Alors, moi, je joue de la derbouka égyptienne. Ne pas confondre avec la derbouka turque, qui est, ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil. Au niveau du son, par exemple, c'est plus aigu, et au niveau de la forme, c'est différent aussi. C'est un instrument très connu, en fait, c'est un instrument que beaucoup de gens ont. Et en fait, moi, j'ai commencé comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est le genre d'instrument qui, depuis beaucoup d'années en Europe, traîne chez beaucoup de gens. Mais souvent les gens l'ont, mais par contre pour ce qui est de jouer les riffs, jouer qu'est-ce qui se joue là-dessus, là, c'est un peu plus rare, donc ça demande soit pour certains une formation, d'écouter beaucoup de ces sons-là et de choper les rythmes traditionnels, parce que ce qu'on joue avec Ellie, c'est quand même on joue dans les clous de tel pays, on joue dans les clous de telle musique, de telle esthétique. Il faut juste correspondre aux esthétiques rythmiques. C'est mon rôle dans le duo Garcia.
Oui, après, on interprète aussi des morceaux qui sont en général joués au oud ou joués sur d'autres instruments que le robab ou la derbouka. Donc, il y a une adaptation un peu où on fait avec d'autres instruments, mais c'est assez intéressant aussi, puisque le robab, c'est un instrument qui est très rare, très peu connu en Europe. Il y a très peu de joueurs, joueuses de robab en France. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la plupart des gens ne connaissent pas cet instrument. Donc, c'est un instrument en bois avec une peau de chèvre, de chevreau, et avec entre 19 et 25, 26 cordes, 27 cordes. Donc, voilà, c'est un instrument dans le son proche du sitar un peu, puisque c'est le même principe de résonance où on va jouer sur des cordes qui vont résonner avec d'autres cordes qui s'appellent les cordes sympathiques, qui résonnent par sympathie, par la vibration donc de ces cordes sur un chevalet avec une peau, un chevalet en tension sur une peau. Okay. Et donc le robab sonne vraiment particulièrement, a une particularité vraiment sonore. Et le robab, pour parler un peu de cet instrument, c'est un peu l'instrument phare en Afghanistan, c'est une sorte d'emblème, c'est l'instrument un peu emblématique de l'Afghanistan, donc c'est un travail artisanal qui est produit que là-bas, donc c'est très dur de s'en procurer déjà, c'est... Ouais. Et donc, euh, Donc voilà, le luth afghan, il y a un répertoire déjà de musique afghane, de musique populaire et classique qui est très vaste et qui est génial. Donc dans le duo Garcia, on joue ces morceaux-là, classiques, traditionnels, populaires, qu'on va adapter aussi là avec la derbouka et pas les tabla, puisque en général en Afghanistan, on a très très souvent, la plupart du temps, on voit le robab tout le temps accompagné par un joueur de tabla. Et très rarement avec une derbouka, ou c'est pas une derbouka, ce sera un autre instrument qui ressemble un peu, mais c'est pas la derbouka, c'est un peu moins, peut-être un peu moins clinquant que la derbouka. Et donc
clinquant,
voilà, on a
en Amélie, donc.
Clinquant. Et brillant, je sais pas
oui,
comment
bah oui,
dire.
On a compris.
Qui claque. Voilà, après. Donc c'est intéressant aussi au robab de jouer des morceaux qui sont pas joués au robab et qui viennent de qui sont tirés de répertoires d'autres pays et qui sonnent au robab différemment. Donc on essaye de les jouer dans l'esthétique un peu qui correspond, avec les rythmiques qui correspondent, mais il y aura toujours une petite particularité puisque le robab ne sonne pas du tout comme le oud ou comme un autre instrument traditionnel.
Et alors toi, comment tu as connu le robab et comment tu as appris à jouer cet instrument ?
Alors moi, je suis guitariste à la base donc j'ai découvert le luth afghan, le robab, il y a 8 ans, 9 ans. À l'époque, je jouais dans le groupe Wallou Beach Consortium, qui était un groupe qui mélangeait musique électronique, musique actuelle, musique électro, rap, ragga, jungle. Donc voilà, avec le un peu à la Asian Dub Foundation, dans le style un peu. Mmh. Et donc voilà. C'était l'idée, c'était de fusionner la musique traditionnelle afghane avec la musique électro que tout le monde connaît.
Donc tu aimais déjà toute cette esthétique musique afghane, puisque c'était déjà l'idée de ce groupe-là, quoi.
Ouais, je suis tombé amoureux de l'instrument en fait en 2012, je sais plus, il y a 9 ans, donc 2011 du coup. Et donc voilà, après j'ai continué de pratiquer cet instrument dans un cercle avec Samuel où on a aussi fait des collaborations avec d'autres musiciens, Tipu Khan à Tours, qui est joueur de tabla, d'autres musiciens de notre entourage, Nicolas Campin à l'accordéon, qu'on a invité aussi sur des scènes, avec aussi le Balkanic Orchestra. On avait fait des petits projets de collaboration avec eux, donc c'était super. Là on mélange le luth afghan et notre esthétique à nous avec Samuel, de son, avec une fanfare, le Balkanic Orchestra, qui est assez connu, où là c'est vraiment des thèmes traditionnels de l'Est. Donc voilà, on s'est retrouvé à jouer des thèmes traditionnels au robab, donc voilà, c'est assez différent. Et voilà, sinon moi je m'y suis mis il y a 9 ans à l'époque avec ce groupe là, donc j'ai commencé le robab comme ça.
En autodidacte
avec des Afghans, des gens de la communauté afghane orléanaise, qui m'ont initié au robab et qui m'ont donné énormément de musique, qui m'ont influencé pour que je m'imprègne en fait du son, de la sonorité, des styles de jeu qui définissent vraiment le robab, qui sont joués vraiment en Afghanistan. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pendant 4 ans avec ce projet et on est parti donc travailler en Afghanistan. On a eu la chance de participer à un échange culturel en Afghanistan en 2014. Donc on a eu la chance d'y aller à Kaboul pendant 10 jours, un séjour de 10 jours, où on a mis en place un concert à la fin de ce séjour avec le groupe Wallou Beach Consortium, où on a incorporé des musiciens traditionnels. Donc moi, je travaillais avec 3 musiciens, un joueur de tabla, un joueur de sitar et un guitariste. Et donc, durant ce séjour, on a préparé un concert en incorporant ces musiciens-là, en créant des parties pour eux. Donc voilà, moi, c'était mon travail là-bas pendant 10 jours. Et avec une intervention dans une école de musique à Kaboul. Voilà, pour présenter un petit peu notre manière de travailler, comment on fonctionnait, comment on mélangeait l'instrument traditionnel avec des machines, tout ça, comment on travaillait comme ça. Donc on a pu présenter ça à des jeunes qui venaient étudier dans cette école. Et donc voilà, ça m'a permis de creuser beaucoup aussi sur l'instrument et l'envie de continuer de travailler, d'aller plus loin dans cet instrument, quoi.
Et du coup, création du duo Garcia par la suite, depuis combien de temps ça existe, le duo ?
Depuis 2015-2016, je crois. 2015 ou 2016, on a commencé à...
Ouais, c'est ça, 5...
On a commencé à jouer. Concerts, je crois.
Ouais, c'est vrai qu'avant, on a quand même passé peut-être un an à jouer entre nous jusqu'à ce qu'on fasse des concerts, quoi. Mm-hmm. Peut-être, 6 ans, quelque chose comme ça, ouais.
Ok, et alors vous avez sorti un album, enfin, c'était un album ou un EP, je sais plus.
Un EP,
plutôt un EP, ouais.
Et alors quel morceau on a pu retrouver dedans, puisque du coup, si vous avez une grosse part d'improvisation, qu'il y a de la restructuration des morceaux, comment vous avez choisi du coup ce que vous allez mettre dedans ?
Alors, sur le CD, on peut retrouver deux morceaux de Rabi Abou Khalil, un oudiste libanais, qu'on aime beaucoup et qu'on a écouté très jeune grâce à notre grand-mère qui nous a fait découvrir ça tout jeune. Et c'est un artiste génial qu'on encourage à aller écouter. Pour en parler vite fait, c'est quelqu'un qui a invité, en fait, avec donc sa musique traditionnelle, ses compositions, c'est un grand compositeur, qui a invité des instruments issus plutôt du jazz et des big bands. Et donc, on va retrouver tout un ensemble de tubas, de trompettes, de plein d'instruments de ce genre-là que normalement on ne trouve pas dans les orchestres traditionnels, vraiment, ni du Liban, ni du Maghreb d'ailleurs. Et donc voilà, donc on va retrouver notamment ça, on va retrouver des morceaux afghans, on va retrouver des morceaux d'Ahmad Zaher, on va retrouver, il y a aussi des morceaux dont on ne sait pas du tout d'où ils viennent, parce qu'on joue des morceaux, des fois on tombe sur des morceaux, mais il y en a plusieurs, hein, sur lesquels on ne sait toujours pas qui, on connaît le pays, puis c'est tout quoi.
Quand tu dis on tombe, c'est que tu les trouves où ?
Soit on les trouve sur les CD qu'on écoute, sur les vinyles, sur YouTube.
Mais du coup, ils sont pas forcément sourcés et on sait pas d'où c'est venu à la base, quoi.
C'est ça, ouais. Et ou des fois, par exemple, on va écouter quelque chose beaucoup, le nom va être disponible, puis en fait, on va arrêter de l'écouter et on sait plus où c'est, et puis on le joue. Et puis, enfin, tu vois, il y a des choses comme ça. Alors, des fois, il y a des choses qu'on joue, puis on attend de retomber sur le nom. Voilà, c'est un peu tout. C'est une quête perpétuelle, parce que comme c'est des morceaux très anciens, joués par plein de gens et pour beaucoup pas mal diffusés, en fait, qui sont pas mal diffusés sur différentes chaînes de musique du monde, des chaînes de musique du Moyen-Orient, des choses comme ça.
Et beaucoup repris aussi, j'imagine.
Et énormément repris, ouais. beaucoup. Donc, bon, bah voilà, c'est des recherches. Et il y en a certains pour lesquels, je pense à Askin Sarabi, par exemple, où, bon, bah voilà, là, il y a des gens qui ont bossé là-dessus, des musicologues même, qui ont cherché, quoi, vraiment d'où il venait ce morceau, un morceau turc. Et on sait que ça, on sait que qu'il est turc. On sait pas qui l'a composé, ni quand. C'est juste qu'il est très vieux et. Et puis ça laisse une petite part de mystère aussi, je trouve ça agréable, c'est cool.
Et comment est-ce que c'est reçu du coup quand vous croisez par exemple les morceaux afghans avec des morceaux du Maghreb, si vous, par exemple vous jouez devant des afghans, comment est-ce qu'ils vivent ce moment-là
C'est hyper intéressant en fait, puisque c'est pas arrivé souvent, mais ça nous est arrivé de jouer pour des associations d'aide aux migrants, et donc ça nous est arrivé de jouer pour des afghans, pas que, mais les moments où c'est arrivé... où on était face à, je sais plus, c'était à Chinon, on était, il y avait peut-être 5 ou 6 jeunes afghans qui étaient là. Et donc, c'était carrément incroyable, en fait, de jouer devant eux, puisqu'ils chantaient les paroles pendant que nous, on jouait les morceaux. Et alors, donc, c'était assez incroyable, je pense, pour nous, déjà, de voir leur réaction hyper émue d'écouter la musique de leur pays en France.
Ouais, les sons qu'ils ont sur leur portable, quoi. Ils nous sortaient les portables, ils étaient là, avec leur Spotify ou avec leur truc, et c'était les morceaux qu'on jouait, quoi.
Donc voilà, nous, ça nous émeut aussi vachement, quoi. C'est pas comme un concert un peu lambda. C'est, là, on joue devant des jeunes Afghans ou des Afghans, et nous, on a un vrai plaisir de jouer cette musique devant des Afghans aussi, quoi.
Pour revenir à ce que tu disais... On n'a jamais eu quelqu'un qui était... ça nous est jamais arrivé qu'un Afghan ou quelqu'un ou un Kurde nous dise « Mais dis donc, c'est pas des tablas, c'est de la derbouk. » ça va jamais jusque-là. Je pense que là, en fait, ce qui leur fait du bien, c'est même pas plaisir, c'est ce qui leur fait vraiment du bien, c'est de voir le rebab qui joue et qui est rythmé avec quelque chose, que ce soit de la derbouk ou des tablas. Je pense que c'est pas... Peut-être que si c'était des tablas, ça leur paraît encore plus.
Oui.
Mais
peu importe la musique qui est rejouée, le plaisir.
C'est ça, c'est ça. Et puis c'est des standards. Moi, je me rappelle d'une fois qui avait été cool aussi. On jouait à la guinguette de Tours et on était, je sais plus, au niveau des balances ou je sais pas quoi, tu te réaccordais. Et nous, on est un groupe, on joue partout. Tu vois, on a joué vraiment dans tous les coins. On n'est pas du tout abonné aux grandes salles où il y a que des...
plus intimes.
Ouais, et puis plus populaire. En fait, on joue une musique populaire dans des lieux populaires. Et alors que aujourd'hui, peut-être le défaut qu'on pourrait donner aux programmateurs de ces musiques-là, c'est que c'est une musique populaire qui vient de pays dans lesquels c'est la musique du peuple. Clairement, c'est la vraie définition de la musique populaire. Sauf que quand elle arrive ici. Ça fait plus partie du milieu populaire. Ça devient un truc presque élitiste. Et du coup, pour un réfugié, par exemple, qui est arrivé à Tours, par exemple, eh ben, pour tomber sur le Robab, c'est pas évident, quoi. Mmh. Alors que ben, nous, en fait, comme on joue dans la rue, on joue dans les guinguettes, on joue dans les trucs, eh ben, là, on peut se croiser. Donc, il y a eu une rencontre comme ça, je me souviens, où t'étais en train de t'accorder, puis là, il y a deux mecs qui débarquent, et puis ben, deux Afghans, du coup, et qui étaient pareil, le sourire mais jusqu'aux oreilles.
Je les ai revus après, quand j'avais joué pour le Nouvel An Afghan, du coup, à la salle Okay Game, je les avais recroisés là-bas, ils étaient hyper contents aussi de retrouver leur musique, quoi.
Ouais, c'est beau, ouais. Mm. Des beaux moments. Ouais.
Et alors justement, le duo Garcia, en 2020-2021, où est-ce que vous allez jouer?
Alors, le prochain concert de... Alors pour cette année, là, c'est notre dernier concert qu'on fait donc ce soir pour le Crous. On va aller jouer pour les étudiants et à côté de leur petite résidence étudiante. Donc super, on s'approche pour amener notre musique. Donc c'est notre dernier concert programmé de l'année, malheureusement. Et donc en 2021, le prochain concert, c'est le 30 janvier. C'est à Orléans, mais je ne saurais même pas vous dire où exactement. C'est à Orléans, en tout cas, on recommuniquera nous dessus. Et donc, ce sera un concert du Dio Garcia accompagné par un dessinateur de BD.
Concert dessiné, il appelle ça.
Concert dessiné, ouais. Au long du concert, capté en vidéo et donc retransmis sur écran, il y aura donc notre musique et la création de cet illustrateur. Alors je sais qu'il s'appelle Mathieu, mais j'ai pas son nom de famille là.
Mystère.
Désolé Mathieu si tu nous entends. Donc on est très content de faire ce projet là, c'est super. Nous on aime, enfin au sein du Dio Garcia, on aime croiser les. Pas les disciplines, mais on aime croiser les choses, croiser les cultures. C'est quelque chose qui est important. Et donc, dans ce type d'exemple-là, ça marche aussi super bien. Croiser le dessin, l'illustration, croiser les pratiques.
Puis notre musique en soi aussi nous donne, en tout cas nous, la possibilité de croiser beaucoup de gens et de parler avec beaucoup de gens. Donc en fait, c'est ce qui est assez chouette dans notre projet, c'est qu'on va intervenir vraiment dans plein de milieux différents, pour plein de publics différents, donc dans différentes structures, carcérales, scolaires... pour des associations, CCAS, mairie, des salles de concerts et des festivals. Et ce qui nous permet de jouer aussi, ce qu'on trouve assez chouette, c'est que quand on joue quelque part, par exemple là, on a eu l'expérience de jouer dans un milieu carcéral, mais que le milieu carcéral ou dans un autre milieu, dans une autre structure, dans un autre cadre, il y a toujours ces gens qui viennent et qui sont complètement curieux de parce que c'est la première fois qu'ils voient le Robab, c'est la première fois qu'ils entendent cette sonorité, et donc ça crée directement en fait un truc chez les gens, une sorte de passerelle de culture, beaucoup d'échanges en fait qui découlent de nos interventions à chaque fois, des concerts qu'on fait, et à chaque fois c'est génial, quoi. On parle avec vraiment beaucoup beaucoup de gens de cultures différentes, donc sur un point de vue personnel, nous ça nous plaît vachement, quoi.
Ouais, clair. Moi je me souviens, enfin il y a un truc aussi qui est flagrant, c'est que tu vois le Robab, donc ça vient d'Afghanistan, c'est tout de suite typé Afghanistan, mais quand même nous on joue pas que ces trucs là mais c'est que même l'esthétique afghane parle beaucoup à tous ceux qui vont être issus de l'immigration du Maghreb, et donc il y en a plein des exemples, je me souviens même pas de tous, hein, mais en maison de retraite il y avait des exemples de gens qui avaient habité là-bas, alors pour différentes raisons, hein, parce que surtout à cet âge-là, il y a par exemple la guerre d'Algérie, tu vois, donc c'est pas que des beaux souvenirs, mais ça leur rappelle des souvenirs et ça leur rappelle le bon côté, tu vois, de cette partie de leur vie, par exemple ça c'était le CCS, et d'autres moments, par exemple quand on faisait de la rue à Sète, tu sais, dans le sud de la France, là, la ville de Georges Brassens. Et je me souviens, on faisait de la rue. Je me souviens de ce mec qui était balayeur pour la ville. Le mec, au bout de la place, il arrive de loin, tu sais. Et de loin, comme ça, il se dresse, il écoute. Et puis, il arrive en dansant et tout, avec son chariot. Et c'était excellent. Le gars, je crois qu'il venait de Tunisie ou de je sais plus trop où. Et il disait, mais c'est chez moi, ça. C'est du son de chez moi et tout. Et en fait, le fait qu'on soit pas... qu'on soit pas la musique d'un seul pays et que finalement autant au Maghreb qu'au Moyen-Orient les gens ils peuvent se sentir chez eux, bah pour nous c'est génial, quoi. C'est vraiment génial, c'est-à-dire que ça éveille quelque chose chez tous ces gens-là, même quand c'est des deuxièmes générations, c'est-à-dire que moi c'est mes parents qui écoutaient ça me rappelle quand j'étais petit, ça on l'a entendu ça plein de fois, quoi, des trucs comme ça, moi ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle quand j'habitais au bled, ça c'est génial. C'est vraiment génial d'avoir cette capacité d'ouvrir les portes, d'ouvrir les vannes aux gens. C'est génial, quoi.
Et oui, du coup, pour, je sais pas, c'est une petite précision aussi, mais c'est vrai que nous, ce qu'on défend dans ce projet-là, c'est pas vraiment une musique c'est des musiques traditionnelles, mais on a une approche, en tout cas, pas du tout traditionnelle. Nous, personnellement, puisque déjà le robab c'est un instrument plutôt qui s'apprend avec un maître dans les traditions culturelles, en tout cas c'est quelque chose qui se transmet d'un maître à un élève, chose que moi j'ai pas forcément eu, j'ai pas du tout eu de maître de robab. Alors ça, dans les traditions afghanes, ça se fait pas vraiment en fait. Il faut avoir un maître, il faut avoir une transmission. Donc moi je peux quand même dire qu'il y a eu une transmission, puisque j'ai été initié par des Afghans qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont donné plein de musique pour comprendre un peu, et qui m'ont donné la possibilité aussi d'aller en Afghanistan, de rencontrer des gens, et même de rencontrer un très grand joueur de robab qui s'appelle Khaled Arman. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer, et donc voilà, même lui me disait à l'époque, il y a quelques années, non, il faut que tu trouves un maître absolument et tout ça, donc c'est vraiment important quoi. Donc moi je lui ai dit, bien monsieur Arman, je comprends et tout ça, mais alors par contre moi j'ai pas les moyens, si je veux aller prendre des cours avec un maître, il faudrait que j'aille voir Kengo Saito sur Paris, qui est un maître de joueur de robab. Et donc voilà, moi j'ai pas pu faire ça parce que financièrement c'est pas évident, j'habite pas sur Paris, donc il y a tout un contexte comme ça qui fait qu'on a, on a pas une approche totalement traditionnelle, même si on a quand même été un peu dans les clous d'une transmission orale de quelque chose quoi, il y a quand même eu une transmission. Mais
ouais, à la Darbouka c'est pareil hein, c'est souvent en fait dans ces musiques là une des premières questions, enfin pas que les gens posent, mais les gens qui connaissent un peu, tu vois, qui sont pas forcément musiciens, mais les gens qui connaissent un petit peu, eh ben ils se demandent avec qui on a appris. Ça a été qui notre maître, où est-ce qu'on est allé, dans quel pays pour apprendre à jouer cette musique-là.
C'est souvent la question, ouais, c'est comment vous avez fait pour apprendre, vous avez eu un professeur? On a appris parce qu'on écoute cette musique depuis longtemps et qu'on a, on a nous-mêmes fait un chemin de recherche. Voilà.
Et les gens ils se rendent pas compte que en fait chaque être humain a une force incroyable en lui. Chacun peut choisir un sujet et le creuser, et fort de sa propre expérience en tant qu'autodidacte peut faire mille choses. On peut
fort de rencontres aussi.
De rencontres, voilà, c'est ça. Et puis c'est, je crois que c'est un truc qu'on défend un peu nous. Enfin qu'on défend. Ça nous ressemble en tout cas. Ça nous ressemble de faire ça. Toi quand t'étais tout gamin, que tu t'es mis à la guitare, t'as eu une démarche. T'as pas choisi d'être autodidacte, mais t'as eu une démarche d'autodidacte, et moi j'ai fait la même chose, et finalement on est bien là-dedans, quoi, je trouve. Il y a un truc où on ressent pas un manque de pas être allé voir un maître.
Mais de toute façon, dans la musique, il faut savoir que quand même, il y a plein de manières d'appréhender la musique, même dans beaucoup de choses, pas que dans la musique, mais il n'y a pas qu'une seule manière d'apprendre la musique ou d'aller chercher ou d'aller apprendre des choses d'une culture, d'une autre culture. Donc en fait, ça tient qu'à nous aussi d'aller faire ce chemin personnel, d'y aller et d'aller voir et de...
Et de prendre ce qui est magnifique,
et puis voilà, d'échanger.
Pas de prendre, pas de prendre, mais de s'imbiber, disons.
C'est beau ce que vous dites. Très bien. Eh bien, je crois qu'on arrive déjà au terme de notre interview, de notre échange. C'était fort intéressant. Dans quelques minutes, on vous retrouve donc en concert pour dans la salle Pantagruel du Crous de Tours. Et donc, je vais vous laisser aller vous préparer. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus échanger autour de la table et derrière les micros de Radio Campus. Et donc, à tout de suite.
À tout de suite.
Merci Mathilde. À tout de suite.
Merci.
À
tout de suite. Et donc, je laisse le duo Garcia s'installer et vous invite donc à écouter leur concert d'ici quelques secondes sur nos ondes. Concert enregistré depuis la salle Pantagruel. Commence tout de suite.
Bonjour. On va commencer ce concert intimiste. Merci d'être venu. Thank you.
Thank you.
Écoutez en ligne toutes nos émissions sur notre site web www.radiocampustour.com.